Louer et remercier soit le Seigneur, ça nous pouvons le dire dans la foi, car c'est ainsi. Là où se trouve Jésus, là il y a de la gloire. Là tout devient différent. Il est la réponse, la vraie réponse à toutes les questions. Il a la solution à tous les problèmes. Il veut nous aider, car il est notre aide. Nous sommes à chaque fois reconnaissants à Dieu de nous donner l'occasion de venir sous l'écoute de la parole. Et si nous avons aujourd'hui une certaine heure de sanctification et de consécration devant la face de Dieu, c'est vraiment en vue de prendre à nouveau conscience que Dieu ne respecte et ne reconnaît que ce qui est fait selon sa parole. Tout ce qui est fait et qui n'a pas été fait selon la parole de Dieu a été fait en vain. C'est pourquoi notre Seigneur dit, c'est en vain qu'il m'adore, qu'il m'honore, parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes, leurs ordonnances. Ce n'est pas faire preuve d'arrogance que de souligner particulièrement la parole de Dieu en ce lieu, de mettre l'accent sur le fait que ce qui est prêché est justement la parole de Dieu et qu'elle est vraie. En effet, nous ne pouvons pas nous conformer aux nombreuses doctrines et opinions doctrinales. Nous devons laisser Dieu s'exprimer et prendre du recul par rapport à toute interprétation. Prendre du recul. Nous ne sommes pas une partie d'une interprétation. Nous sommes une partie de la parole. Et notre Seigneur lui-même n'est pas une interprétation, mais il est la parole faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous avons reconnu que nous vivons à une époque où les interprétations ne font plus aucune impression sur le vrai peuple de Dieu. Que celui qui le souhaite s'attache à l'interprétation. Nous voulons que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs et que nous devenions une partie intégrante de la parole. Il arrive souvent que même les prédications de frère Branham soient interprétées. On prend comme des raisins secs dans un gâteau et on part avec certaines choses sans les voir et les avoir en accord avec le reste de l'Écriture sainte, des saintes Écritures. Et je vais vous montrer ce matin, parce que je n'ai pas de mots, de paroles particulières, je vais vous montrer quelques éléments pour en déduire et aussi pour vous faire comprendre combien il est important que le contenu spirituel de la parole de Dieu soit révélé par l'Esprit et correctement placé dans le contexte ou dans les contextes auxquels, dans les contextes ou bien alors dans le contexte auquel il appartient. Si l'on entend régulièrement des gens parler mystérieusement de révélations ici et là, alors laissez-moi vous dire très clairement que nous pouvons très bien nous passer de toute révélation privée. Ce dont nous avons besoin, c'est de la révélation de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons même veiller à ce qu'un enseignement particulier ou une soi-disant révélation ne devienne pas quelque chose de spécial pour nous. Ce qui est spécial doit être et rester Jésus-Christ. Si un enseignement est mis au premier plan, alors quelque chose ne va plus avec cet enseignement. Jésus-Christ doit être le centre de tout enseignement et de toute révélation. Et alors, nous aurons aussi la bonne relation avec lui, avec sa parole et aussi les uns avec les autres. Lorsque Frère Rousse a lu le psaume, j'ai pensé à Ésaïe 40. Et c'est par là que nous voulons commencer notre observation biblique aujourd'hui. Ésaïe 40. Ici, il est écrit au verset 6. Écoute, une voix retentit. Crie. Et je répondis, que crierai-je? Que crierai-je? Et la réponse a été, toute chair est comme fleur, est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de l'Éternel souffle sur elle. Oui, l'herbe, c'est le peuple. L'herbe se dessèche, la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Je me souviens très bien de l'époque, en 66, où nous avons commencé à diffuser le message sur la base de, l'ordre divin, du mandat divin, et que je me suis retrouvé devant la tâche d'écrire la première lettre circulaire et d'en choisir le titre. Et je me souviens très bien de l'heure, très exactement. Et vous, vous en souvenez certainement tous ou beaucoup d'entre vous qui l'ont lu. Le titre était « La parole de Dieu demeure éternellement ». C'est par là que nous avons commencé. Et c'est par là que nous resterons. Et c'est ainsi que nous terminerons. La parole de Dieu demeure éternellement. Les temps vont et viennent. Les hommes changent d'opinion, d'enseignement, de point de vue, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et c'est dans cette parole que nous voulons être fondés quand notre Seigneur parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, au verset 17. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité. Et nous savons aussi ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 4, dans 2 Timothée 4, qu'un temps viendra où l'on trouvera insupportable le saint enseignement et où l'on accumulera docteurs sur docteurs qui prêcheront alors ce qui démange les oreilles des hommes, ce que les hommes veulent bien entendre. On a déjà dit auparavant, et ne prenez pas cela pour une plaisanterie. Mais avant de se gratter, il faut se laver. Et s'il y a des gens qui ont les oreilles qui grattent, qui démangent, je propose qu'ils soient lavés, et qu'ils soient lavés au bain de la parole. Comme il est écrit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Il y a des gens qui sont lavés dans le bain de la parole. qui ne se contentent pas de prendre une petite douche, mais qui font un bain complet afin que ce qui n'y appartient pas ou ce qui n'a pas sa place en nous ou dans notre vie ou qui nous est attaché puisse être lavé et que nous en soyons débarrassés. Gardons cela devant les yeux et dans le cœur, s'il vous plaît. Toute chair est comme l'herbe et toute sa beauté passe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et puis, cela continue ici au 9e verset, Ésaïe 40. Monte sur une haute montagne, Sion, comme une messagère de joie. Élève ta voix de toutes tes forces, Jérusalem, comme une messagère de joie. Élève-la, ne crains pas. Annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici l'Éternel Dieu vient comme un homme fort et son bras lui donne la victoire. Alléluia. Son bras lui donne la victoire. Je l'ai écrit dans la dernière brochure et je me réjouis en fait du fait qu'au retour de notre Seigneur, il n'aura plus à s'occuper de rien d'autre que de son épouse bien-aimée qu'il prendra alors dans sa gloire. Tout le reste, il a déjà fait. Il est le vainqueur de Golgotha. Et nous vivrons que tous ses ennemis deviendront son marchepied. Dans le texte original, il est dit en fait que ses ennemis formeront son marchepied, c'est-à-dire qu'ils sont pour ainsi dire ce qui se trouve là, à ses pieds, sous ses pieds, et qu'il y pose ses pieds là-dessus, comme le faisaient les anciens lorsqu'ils rentraient chez eux, fatigués de leur charge et de leur travail, les personnes d'un certain âge de la journée, et qu'ils se reposaient alors, on leur levait les pieds et le tabouret était, donc le marchepied était là et on remarquait qu'il se reposait. Notre Seigneur aura mis tous ses ennemis sous le marchepied et aucun n'aura plus rien à dire. Tous seront vaincus et il sera vainqueur et ils seront à ses pieds, domine au milieu de tes ennemis. Peut-être devrais-je vous le lire du psaume 110 qui devrait toujours être écrit comme c'est le cas depuis des temps immémoriaux. Le psaume 110 à partir du verset 1. De David, un psaume, ainsi parle l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. Un marchepied pour tes pieds. Amen. Et c'est ainsi aussi. Un marchepied pour tes pieds. Pour tes pieds. Comme pour servir d'escabeau à tes pieds. Et c'est ainsi. Nous aimons parfois parler du pouvoir de l'ennemi. Où nous en parlons beaucoup. Et peut-être même trop. Nous ferions mieux de parler de la puissance de Dieu et de comprendre que les forces de l'ennemi sont vaincues. L'Éternel étendra de Sion son sceptre. Maintenant, le verset 2. Puissant, domine au milieu de tes ennemis. Le verset 3, il est écrit, ton peuple sera plein de volonté au jour de ton armée. Et nous attendons en fait, en tant que peuple de Dieu, cette marche victorieuse, cette marche militaire de notre Dieu. Nous voulons vivre cette dernière sortie avec une grande majesté et y participer. Ce dernier exode avec une grande majesté et y participer. Lorsque l'Éternel étendra encore une fois sa main droite pour donner la victoire à son peuple, Au verset 3, ton peuple sera plein de volonté. Personne ne ressentira de résistance en lui. Personne n'aura de résistance, de répulsion. Au contraire, tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu auront un esprit volontaire. Ils suivront intérieurement au jour de l'arrivée de ton armée. Il continue le verset 3, en parure sainte, comme du sein de l'aurore. La rosée viendra à toi, ta jeune équipe. Le verset 4, l'Éternel a juré et il ne se repentira pas. Tu seras sacrificateur éternellement à la manière de Melchisédek. Vous savez qui était et qui est Melchisédek, le roi de Salem, qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Vous pouvez le lire dans Hébreu au chapitre 7. Jésus-Christ n'est pas devenu souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre divin, selon l'ordre de Melchisédek. Je le lis ici dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sortit à la rencontre d'Abraham au retour de sa victoire sur les rois et le bénit. C'est pour cela qu'Abraham lui a aussi réparti le dixième de tout, donc la dîme de tout le butin. D'abord, si l'on interprète son nom, il est roi de justice, mais aussi roi de Salem, de Salem, ce qui signifie roi de paix. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur pour toujours. Comme il est merveilleux que nous trouvions dans les Écritures la réponse à toutes nos questions. Ceux qui ont lu des interprétations sur ce thème ont parfois eu un sentiment différent. Un interprète biblique très connu a écrit que Melchisédek devait être un roi païen car on ne le trouve nulle part dans le domaine d'Israël. Personne ne peut être frappé de plus d'aveuglement. Nous avons ici affaire au roi des rois et au seigneur des seigneurs qui a assumé les différentes tâches déjà dans l'Ancien Testament. Mais oui, pour anticiper ce qui se passerait et devrait se passer dans le nouveau. S'il est écrit ici qu'il s'agit d'Abraham, je voudrais dire ceci dans le contexte et lire également l'Écriture pour nous montrer combien il est nécessaire de lire la parole de Dieu avec une compréhension spirituelle. Il ne suffit même pas de comparer ou d'opposer un passage biblique à un, ou bien de placer en face un passage biblique, des passages bibliques à un autre, ou bien aux autres. Mais il faut s'assurer d'avoir une compréhension spirituelle de ce qu'on lit. Comme nous l'avons lu à propos d'Abraham, je voudrais lire le verset 9 de Matthieu 23. Matthieu 23, verset 9, connu de nous tous. Et ensuite lire que Abraham, par exemple, a été appelé notre père dans la foi. Je lis Matthieu 23, nous en parlions un peu tout à l'heure avec deux frères. Matthieu 23, verset 9. et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Si nous ouvrons maintenant la même parole de Dieu, Abraham est assez souvent nommé et désigné comme le père de la foi. Je voudrais lire à ce sujet le chapitre 4. Je voudrais lire à ce sujet le chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 4. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Moi, je vais lire le verset 11. Romains, chapitre 4, verset 11. Et le signe extérieur de la circoncision, il le reçoit alors comme un sceau de la justice de la foi qu'il possédait dans l'état d'incirconcision. Il devait aussi devenir le père de tous ceux qui croient sans circoncision, afin que la justice leur soit imputée. Et le Père des circoncis, c'est-à-dire de ceux qui non seulement lui appartiennent en vertu de la circoncision, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi que notre Père Abraham possédait déjà à l'état incirconcis. Ici, il est appelé notre Père. Et Jésus dit, vous n'appellerez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père et il est dans les cieux. Abraham est plus souvent cité comme Père de la foi. Même Jacques l'a encore mentionné. Je lis dans Jacques, chapitre 2, verset 21. Notre père Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel des sacrifices? Même Paul a écrit aux Corinthiens, vous avez certes plusieurs maîtres, mais en Christ, je suis devenu votre Père. Laissez-moi le lire. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. En effet, si vous avez eu plusieurs milliers de maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Car dans le Christ Jésus, je suis devenu votre Père par la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi je vous lance cette mise en garde. Prenez exemple sur moi. Nous pourrions encore lire un grand nombre de passages bibliques dans lesquels on trouve des déclarations similaires à celles que nous avons déjà perçues ici maintenant. Vous remarquez qu'il ne suffit pas de prendre un seul passage et de dire ensuite, oui, attendez, il y a quelque chose de différent. Mais c'est un tout autre contexte. Il faut simplement savoir de quoi il s'agit ici. Paul était un père en Christ. Mais personne ne l'a appelé père. Dieu écrit, Jean écrit par exemple, je vous écris à vous, père, parce que vous êtes devenus forts dans la foi. Je vous écris à vous, les jeunes gens. Il écrit encore. Que voyons-nous ici? Je lis encore plus. Je lis dans le prophète Ésaïe. En effet, lorsque ce prophète a dit, « Toi, ô Dieu, tu es notre père. Abraham ne sait rien de nous. » Ésaïe, chapitre 63, puis aussi, Ésaïe chapitre 64, Ésaïe 63, verset 15 et 16. Ésaïe 63, verset 15 et 16. Regarde du haut des cieux, regarde de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance de héros, l'élan de ton cœur et ta compassion? Ne te retiens pas contre moi, car tu es notre Père. Abraham ne sait rien de nous et Israël ne nous connaît pas. Toi, Éternel, tu es notre Père et ton nom est notre rédemption depuis l'éternité. Amen. Nous voyons ici comment cet homme de Dieu a écrit étant poussé par l'Esprit. Au chapitre 9, versets 5 et 6, il a prononcé cette merveilleuse prophétie concernant le Rédempteur. Peut-être puis-je la lire à l'instant. Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Car l'enfant nous sera né, le fils nous sera donné, sur l'épaule duquel reposera la domination, et son nom sera merveilleux. Conseiller, Dieu vainqueur, Père éternel, Prince de la paix. Sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David. Et pour sa royauté, l'établissement et la soutenant par la justice et l'équité, dès maintenant jusque dans l'éternité, le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Ésaïe 64, verset 8 dit, il lit le verset 7 plutôt, le verset 7, Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne te livre pas à une colère sans remède. Ne te livre pas à une colère sans réconciliation, pardon, sans réconciliation, ô Éternel, et ne te souviens pas éternellement de nos fautes. Ah, regarde, nous sommes tous ton peuple. Amen. Nous voyons avec quelle ferveur, ces hommes de Dieu ont exprimé ce dont il s'agit dans la prière et la prophétie. Qu'est-ce que ces paroles de notre Seigneur ont à nous dire? C'est que vous n'appellerez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père et c'est celui qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un revendique cela et que le monde entier tombe dans le panneau et revendique et exige qu'on l'appelle ainsi et qu'il se fait appeler même Saint-Père, alors qu'il ne l'est pas du tout. Alors, nous avons ici une compréhension claire sur la base des saintes Écritures. Comprenez-vous cela? Que quelqu'un puisse avoir cette prétention et se faire appeler Père ou même Saint-Père. Paul a eu les douleurs de l'enfantement en annonçant l'Évangile et il dit, je dois de nouveau vous enfanter avec douleur. De quoi s'agissait-il? Il ne s'est pas contenté d'annoncer l'Évangile. Il a voulu participer au fait que les hommes vraiment à qui il a prêché naissent de Dieu, naissent de nouveau, que les hommes deviennent des fils et des filles de Dieu. Il a participé par la prédication au fait que des hommes reçoivent la relation père-fils, cette relation divine, cette filiation divine, et reconnaissent et expérimentent la nouvelle naissance. C'est une toute autre chose que de se faire appeler Saint-Père ou Père par le monde entier. Vous l'avez tous remarqué. J'ai d'ailleurs trouvé cela très impressionnant. J'étais probablement à Singapour à ce moment-là, peut-être aussi sur le vol pour Manille, en tout cas en Asie du Sud-Est. Et quand j'ai lu dans la presse quotidienne, dans le Herald Tribune, quand ce monsieur Pesley d'Irlande du Nord a soudainement pris la parole au Parlement de Strasbourg et a montré la pancarte Pape Jean-Paul II, Antichrist, je te résiste, je ne me soumettrai pas à toi. Cela a provoqué un énorme tumulte. J'étais reconnaissant à Dieu qu'il y ait encore des protestants qui n'aient pas oublié que des millions de personnes ont laissé leur vie sur des bûchers pendant le Moyen-Âge jusqu'à ce que la percée ait lieu et que l'Évangile soit annoncé librement. Il faut se rappeler qu'il a été interdit de lire la Bible pendant près de 1000 ans. Il faut s'en souvenir. Et qui l'a interdit? Des hommes qui prétendaient agir au nom de Dieu ont interdit au peuple de lire la Bible. Alors comment peuvent-ils être informés? Comment est-ce que le peuple devrait être informé? C'est informé simplement parce que c'est un soi-disant Saint-Père. Et je me suis en fait réjoui de cela. J'ai lu un deuxième article en allemand. Et il y avait déjà le terme que je dois relier dans lequel le H est enlevé devant. Donc en français, ça fait saint. Donc on enlève le S. Et le S, et il ne reste plus que E. Donc en allemand, donc en français, ça ferait A pour saint. Donc on enlève le S. Frère Franck joue un jeu de mots, fait un jeu de mots, et ainsi de suite. Et en fait, je l'ai déjà lu. Quelqu'un m'a dévancé, mais j'ai probablement eu cette idée plus tôt que cet auteur. Et c'était écrit Père pressé et non Père saint. Et puis tous les voyages ont été décrits. Vous vous demandez peut-être, donc Père pressé, tous ces voyages ont été décrits dans l'article. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'aborde toujours ce sujet. Il faut dire que dans ces derniers jours, la décision sera prise. Il n'y aura que deux groupes, l'un sous le Christ comme chef tête et l'autre sous l'Antichrist comme soi-disant chef. Et parce que nous devons prendre notre décision, ces choses doivent être dites. Et vous savez très bien qu'il n'y a presque plus personne qui ose les dire. Et certains ont déjà exprimé leur inquiétude en disant, mais frère Franck, n'as-tu pas peur qu'un jour il t'arrive quelque chose? Je vais vous le dire très franchement. Si je pouvais sceller mon témoignage pour Christ et mon engagement pour la vérité par ma propre vie, ce serait le plus grand privilège que Dieu pourrait me donner sur terre. Il ne pourrait y avoir de meilleure conclusion et de meilleur couronnement du ministère et de la prédication que cela. Mais que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. En effet, nous ne faisons aujourd'hui que des comparaisons. Vous remarquez déjà combien il est important de lire réellement les Saintes Écritures avec une compréhension divine et de ne pas se contenter d'extraire quelques passages bibliques ici et là. Je lis encore un peu plus loin dans Matthieu 23 et plus précisément au verset 10. Ne vous faites pas non plus appeler enseignant. Quand nous pensons à l'école, au nombre de maîtres et de maîtresses d'enseignants que les élèves ont, et que les élèves disent, j'ai un bon maître ou une bonne maîtresse, ou bien c'est un enseignant, il n'y a rien de mal. Mais si quelqu'un occupe un poste spirituel, ici c'est de ça qu'il s'agit, et se fait ensuite appeler enseignant ou d'un autre nom, d'un autre titre, ce serait mal. Je vous lis à ce sujet un passage de l'Épître aux Corinthiens, et plus précisément le 12e chapitre. Dieu a placés dans l'église, différents ministères et offices et services, mais personne n'a le droit de dire qu'il est prophète, qu'il est apôtre, qu'il est enseignant et de mettre ces termes dans la bouche du peuple et de dire qu'il est pasteur et ceci et cela. Un seul est le Seigneur, un seul est maître, un seul est enseignant et nous sommes tous là pour le servir. Même si quelqu'un se faisait appeler prophète, ce serait faux. S'il est prophète et que nous l'accueillons, recevons parce qu'il est prophète, alors nous recevons la récompense d'un prophète. Mais si nous faisons comme les gens autour de Mahomet, qu'ils sont effectivement venus et ont dit « Ô prophète de Dieu, ô messager de Dieu » et ainsi de suite, alors ils ont fait d'une chose une idole. Et les gens tous regardent à cet homme au lieu de regarder à Dieu au ciel. Hein? Et ça, Dieu ne le veut pas qu'on regarde aux hommes. Dieu ne veut pas d'idolâtrie. Dieu veut un service divin. Et le service divin signifie que nous ne rendons pas gloire au vase ou bien à la personne que Dieu utilise, mais au Créateur, au seul Créateur qui dirige et ordonne toutes choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il est écrit, 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les uns comme apôtres, deuxièmement, comme prophètes, troisièmement, comme enseignants. Vous pouvez lire un texte similaire dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je vais tout de suite passer au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Il est écrit au verset 1, Actes des Apôtres 13, verset 1. Actes des Apôtres 13, verset 1. En ce temps-là, à Antioche, les prophètes et les enseignants suivants travaillaient ensemble dans l'église de cette ville. Et ensuite, les différentes personnes sont énumérées l'une après l'autre. Et ensuite, à cela, je voudrais aller dans Hébreux, chapitre 1, verset 1. Peut-être même avec l'aide de Dieu, des Saintes Écritures aussi un peu... Et à l'aide de Dieu, faire un peu briller la lumière sur ce sujet, grâce à l'Écriture sainte. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après que Dieu eut autrefois parlé au Père de diverses manières et sous diverses formes dans les prophètes, il nous a parlé à la fin de ses jours dans le Fils, qu'il a établi héritier de tout, par lequel il a aussi créé les temps universels. Maintenant, le verset 3 nous dit ici exactement qui il est. Celui-ci est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il porte l'univers par sa parole toute puissante, etc., etc. Il y a des gens qui veulent très vite terminer une conversation avec cette parole. Si nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'un âge prophétique et que Dieu a envoyé un ministère prophétique, alors ils viennent tout de suite avec ce passage biblique et disent que Dieu a parlé par les prophètes et qu'à la fin des jours, il a donné et fait la conclusion en son Fils. Et ils en tirent aussitôt la conclusion logique en disant que Dieu n'a donc plus de prophète, puisque tout a été récapitulé dans le Fils. Vous voyez, comme je voyage beaucoup et que je suis toujours en contact avec ce genre de choses, il est très important de pouvoir examiner un tel sujet à la lumière des Saintes Écritures pour aider les autres. Il est vrai. Et nous pouvons ajouter à cela Luc 16, verset 16, que tous les prophètes et la loi étaient jusqu'à Jean et que dès lors, le royaume de Dieu est annoncé et que tous les violents y pénètrent avec force. Alors nous disons amen à cela, car Dieu a parlé par tous les prophètes jusqu'au dernier prophète Malachie, qui a vécu environ 400 ans avant le Christ. Et a ensuite tout résumé. Mais c'est exactement de la même manière qu'il est nécessaire que le ministère du Nouveau Testament, en ce qui concerne la partie prophétique, soit assuré par le ministère d'un prophète. C'est ce que nous devons comprendre. Et je vais vous le montrer à partir des Saintes Écritures, car seul celui qui voit cela sur la base de la parole le voit d'un point de vue divin. Et celui qui ne peut pas le voir sur la base de la parole aura une résistance intérieure. La parole nous donne toujours la clarté. C'est de la parole que nous recevons la clarté. Éphésiens chapitre 3, versets 4 et 5. Éphésiens 3, verset 4. Par là, si vous le lisez, vous pourrez reconnaître mon intime familiarité avec le mystère de Christ. Ce qui, dans les siècles passés, n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Pas tel que cela a été révélé maintenant à ses saints apôtres et autrefois aux prophètes, mais résumé ici, faire connaître comme il a été révélé maintenant à ses saints prophètes et à ses saints apôtres et prophètes. Maintenant, mais bien aimé, c'est très important de savoir que Dieu a établi, a placé ces ministères-là dans l'Église. Et pour quelle raison? Pour l'édification du corps de Christ. Dieu a des enseignants, des prophètes, des évangélistes. Dieu a tous ces ministères-là qu'il a établis et placés dans l'Église pour rendre les saints capables d'exercer le ministère de l'Église pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Pierre l'a reproduit de manière similaire. Je lis le troisième chapitre, donc 2 Pierre, chapitre 3. Ici, il est écrit au verset 2. 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. « Afin que vous vous souveniez des paroles et restez attachés aux paroles que les saints prophètes ont prononcées autrefois et du commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été communiqué par vos apôtres. » Donc, Dieu nous a révélé ce que les prophètes ont dit et nous a fait savoir de quoi ils s'agit. Je voudrais maintenant continuer à lire dans les Actes des apôtres pour montrer que partout dans les églises, il y avait ces différents ministères et nous croyons que Dieu ne change pas et que la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et si elle reste éternellement, elle doit être valable. L'ordre divin de l'Église doit rester valable jusqu'à la fin. Il y avait ces différents ministères-là dans les églises locales. Je voudrais maintenant lire au passage des Actes des apôtres et plus précisément le verset 32. Chapitre 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient des prophètes et des orateurs remplis de l'esprit, donnèrent aussi de leur côté, par de nombreux discours, des encouragements aux frères et les fortifièrent dans la foi. Nous savons de quoi il s'agit. C'est précisément lorsque la parole prophétique nous est révélée qu'une lumière s'allume. C'est pourquoi Pierre écrit, Nous avons d'autant plus fermement la parole prophétique à laquelle nous sommes attentifs comme une lumière éclatante qui apparaît dans un lieu obscur. Lorsque Dieu envoie un prophète, ce n'est pas pour interpréter la parole, mais pour la révéler, pour la faire briller dans la lumière divine, dans les pensées de Dieu, dans la signification, pour relier correctement les contextes entre eux, pour compléter l'ensemble du tableau de l'image. Et comme sur chaque sujet, et comme Frère Branham l'a toujours si bien formulé, pour les extrémités détachées, pour ce qui est resté détaché et n'a pas pu être relié, pour maintenant les relier entre eux et pour faire proclamer au peuple le message global de notre Dieu par la révélation divine. Mais c'est justement là que nous devons veiller à ne pas nous arrêter à certaines déclarations. Et je le dis maintenant de bon cœur, sans suspicion et sans prononcer de blâme direct. Mais certaines choses me parviennent, et notamment le fait que des cassettes ont été distribuées ici, sous le soi-disant prétexte que l'Apocalypse et ainsi parle le Seigneur, ainsi que les sept tonnerres, n'est-ce pas, prennent la parole. Non, je dis pas cela d'un mauvais cœur. Je dis cela pour le bien de la vérité. Laissez donc à Dieu ce qui est à Dieu. Et souvenons-nous de cette parole de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si je la trouverai du premier coup parce que je ne l'ai pas lu depuis de nombreuses années. Mais c'est probablement toujours Deutéronome 29, peut-être c'était... Oui, Deutéronome 29, oui. C'est écrit Deutéronome 29, verset 29. Ce qui est encore caché est auprès de l'Éternel, notre Dieu. Pas chez les ventriloques, ces gens qui ont la faculté de se faire entendre, d'articuler sans remuer les lèvres. Et pas chez ceux qui sortent toujours quelque chose de nouveau de leurs manches. J'aimerais pouvoir vous donner des boutons de manchette serrés pour que les manches soient serrées, restent fermées. Je relis Deutéronome 29, verset 29. Ce qui est encore caché est auprès de l'Éternel, notre Dieu. Mais ce qui a déjà été manifesté est destiné à nous et à nos enfants pour l'éternité. Amen. Amen. C'est ainsi. Il en sera toujours ainsi. Et ensuite, il est dit, afin que nous accomplissions toutes les paroles de cette loi. Si vous saviez tout ce que j'ai déjà pu lire, même de la part d'un homme très spécial de Singapour, qui a également écrit sur les sept tonnerres. Je suis fatigué de tout cela. Et cela me fait en fait très mal, je peux déjà le dire, car en ce lieu, nous n'avons eu qu'une chose dans le cœur et dans l'esprit depuis le début, c'est de laisser Dieu lui-même s'exprimer. Et tout ce que les hommes veulent faire, entendre, ne peut pas se faire ici, ne peut pas se passer ici, dans l'église. Pour cela, il faut choisir d'autres lieux. Ce lieu est consacré à Dieu, destiné à la proclamation de la pure vérité de la parole de Dieu. Et celui qui ne veut pas entendre la pure vérité, oui, Dieu lui enverra même une puissance d'erreur, d'égarement, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 2. Cela fait mal. Vous pouvez me croire. Quand je regarde l'état général, alors une douleur très profonde me traverse quand je vois ce que tout est devenu. Et c'est ici que la clé est mise entre nos mains. Ce qui est encore caché, il relit Deutéronome 29, verset 29, est auprès du Seigneur, est auprès de l'Éternel, notre Dieu. Je vais vous lire ça d'Apocalypse 10. Que même après que les sept tonnerres ont fait retentir leur voix, il a été dit, scelle et n'écris pas. Apocalypse, chapitre 10, verset 3. Apocalypse 10, verset 3. Et il appela d'une voix forte comme un lion rugit. Quand il eut ainsi crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'allais l'écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui me criait. Scelle ce que les sept tonnerres ont dit. Et ne l'écris pas. Voilà, c'est tout. C'est la sainte parole de Dieu. Et celui qui, même sans révélation, lit ce passage biblique avec un esprit clair, remarque tout de même que lorsque le Seigneur descend, à ce moment-là, en tant qu'ange de l'Alliance, il tient dans sa main droite, c'est écrit au verset 3, au verset 2, un livre ouvert. Qu'est-ce que c'était ou qu'est-ce que cela signifie? Que ce processus ne peut avoir lieu qu'après l'ouverture du livre scellé. Au moment où cela se produit, le livre qui était scellé, selon le chapitre 5, est ouvert et se trouve dans la main de cet ange qui descend alors et pose un pied sur la terre et la mer. J'ai parfois du mal à le supporter et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je manque d'amour, pas parce que je n'ai pas assez de patience, mais parce que je vois le déchirement du peuple de Dieu, divisé en plusieurs camps, selon le mot anglais, divide and right, ou rule, divisé pour mieux régner. Mais alors, ce sont les hommes là qui dominent, là où il y a la division. Mais là où Dieu reçoit ce qu'il veut de plein droit et peut régner et peut dominer, là, on ne reste pas dans la division, on ne divise pas. On relie, on unit dans l'amour divin, on rassemble sous un seul chef, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et alors, nous sommes un seul cœur et une seule âme. D'ailleurs, il en est ainsi en particulier ce qui se trouve maintenant dans l'Apocalypse au 10e chapitre en rapport avec les sept tonnerres. Quand vous lisez les Saintes Écritures, la voix du Seigneur, notre Dieu, est comme un puissant tonnerre. C'est ce qui est rapporté dans l'évangile de Jean. C'est ce qu'écrivait déjà Job, je pense qu'au chapitre 37, il nous l'a fait savoir d'une manière remarquable. Peut-être déjà devait-il l'écrire ainsi, poussé par l'Esprit, Job 37. Ici, il est écrit, dès le verset 2, « Écoutez, oh, écoutez le tonnerre de sa voix et le grondement qui s'échappe de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Derrière l'éclair, le tonnerre rugit. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient pas les éclairs dès que son tonnerre se fait entendre. Dieu tonne merveilleusement de sa voix. Lui qui fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Si c'est Dieu en ce temps-là, ça ne peut pas être aujourd'hui un frère Franck ou un autre frère. Non, ce sera Dieu et au temps fixé par Dieu. Il n'a pas besoin d'un autre qui fasse un peu de bruit derrière lequel il n'y a absolument rien. Et j'ai ici la très grande crainte que l'on fasse beaucoup de vent et que Dieu ne soit pas dans le vent. Et que souvent on allume un feu et Dieu n'est pas dans le feu. Que l'on crée souvent une ambiance sans que cela soit vrai. Et nous n'avons pas besoin de tout cela. Revenons à ce que nous avons dit en introduction. Nous ne sommes pas destinés à prendre part à des interprétations. Nous avons été désignés pour faire partie de la parole. Et lorsqu'il est écrit ici, Dieu tonne merveilleusement de sa voix. Alors ce n'est pas un XY ou comme un TZ qui tonne, c'est Dieu et personne d'autre. Comment le vois-je? Qui donc pourrait encore tonner? Il serait bon que pour moi et pour Dieu, il serait bon pour moi et pour Dieu qu'il laisse tomber tout cela et qu'il revienne à la simplicité de la parole. Merci, merci. Regardez, grâce à cela, je vous remercie. Oui, que le Seigneur soit remercié par le fait que je peux dire avec humilité, précisément, parce que je n'ai pas lu les prédications de frère Branham une seule fois. Je les ai écoutées plusieurs fois. J'ai dû me pencher sur la traduction phrase par phrase. Il n'y a pas de possibilité de faire une traduction à moins d'avoir assimilé soi-même le contenu que l'on doit traduire, de l'avoir compris soi-même premièrement, et alors on peut le transmettre. Et non seulement cela, mais l'attachement à la parole de Dieu est simplement déterminant en toutes choses. Je pourrais vous dire qu'en ce qui concerne cette notion des sept tonnerres ou des différents tonnerres, il n'y en a pas forcément sept. Il peut aussi y avoir un seul tonnerre. Par exemple, dans l'Apocalypse au chapitre 6, c'est même l'un des quatre êtres vivants qui parlait avec une voix de tonnerre. Il peut s'agir de Dieu, mais Dieu peut aussi, d'une manière ou d'une autre, utiliser ici un être vivant. Vous savez qu'il y a quatre êtres vivants devant le trône. Dans Apocalypse 6, verset 1, il est écrit, « Je vis alors l'agneau ouvrir l'un des sept sceaux. » Apocalypse 6, verset 1, « Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui criait comme d'une voix de tonnerre. Viens. » Alors cela nous convient aussi, je lis dans le chapitre 4, verset 5, Apocalypse 4, verset 5, en même temps il sort du trône des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. On peut lire la même formulation à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Ici, au chapitre 11, il est écrit au verset 19. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Verset 19. Alors le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance fut rendue visible dans son temple. En même temps, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une violente grêle. Celui qui lit le contexte ici remarque que l'annonce a été faite ici, que le Seigneur Tout-Puissant a pris le pouvoir, qu'il a pris le règne, qu'il est entré dans son règne. Ça, c'est Apocalypse 11, le verset 15. Maintenant, je vous lis que c'est encore écrit exactement de la même manière en relation avec l'épouse au repas des noces. Apocalypse chapitre 19, verset 6. Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et j'ai entendu un bruit semblable au cri d'une foule nombreuse, semblable au bruit des grandes eaux et au fracas de forts tonnerres, tandis qu'ils criaient, « Alléluia, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant est entré dans son règne, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et... Donc, si quelque chose d'extraordinaire se produit déjà et y est lié, et quelque chose est lié à quelque chose d'extraordinaire, alors nous devons comprendre et saisir que cela ne peut jamais être laissé à un homme. Mais que le Seigneur Dieu fera ce qu'il a prévu au moment déterminé et qu'il ne donnera à personne de le faire. Il ne donnera à personne de le faire et demandera aussi à personne de le faire. Mais remarquez là aussi, nous devons être vigilants et voir que Frère Branham s'est référé spécialement à l'expérience où ce bruit énorme s'est déclenché, à savoir cette détonation successive, et il l'appelle aussi cet tonnerre. Et puis il y a des gens qui ne savent pas faire la différence et ils disent soudain, vous l'avez tous lu? Même Life Magazine a parlé des sept tonnerres. Et puis, il y a des hommes qui lisent ça et qui disent, oh, mesdames et messieurs, alors, ça et ça. Alors, les sept tonnerres ont été ont déjà retenti là le 28 février 63. Les sept tonnerres, non. Qu'est-ce que c'était? Il a eu auparavant l'expérience qu'il a vue sur son dans sa vision et qui s'est quand même littéralement réalisé par la suite. Pourquoi ne pas laisser toutes ces choses dans le contexte dans lequel elles s'inscrivent? Si le Seigneur est comme moi et il est probable qu'il le sera, il se lassera un jour de toutes ces choses et reprendra son affaire entre ses mains. Et tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole sera laissé sur le bord de la route, à gauche comme à droite. Le dernier chemin, Dieu le parcourra avec ceux qui sont restés dans la parole, qui ont eu de la patience et qui ont su attendre que l'heure de Dieu sonne. Il n'y a en effet rien que nous puissions accélérer. Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain, c'est d'une part attendre, et d'autre part, si nous ne pouvons pas le faire, nous mettons le peuple de Dieu dans le désordre. Et ce n'est pas pour cela que la parole a été révélée. Permettez-moi de vous relire le verset 7 d'Apocalypse 10, qui a déjà été lu à maintes reprises depuis le début, juste pour vous montrer qu'en cet âge prophétique, la parole prophétique, le mot prophète est également utilisé dans le Nouveau Testament. Même dans l'Apocalypse, ici au chapitre 10, au verset 7, le décrit. Mais dans les jours où la voix du septième ange retentira, où il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu se sera alors accompli, comme il l'a fidèlement communiquer à ses serviteurs les prophètes, comme un joyeux message, digne de confiance. Le Seigneur Dieu a des serviteurs, il a des prophètes, il a des enseignants, il a tout coordonné. Par exemple, lorsqu'un prophète reçoit une révélation de Dieu, nous avons un matériel global qui doit peut-être encore être présenté de manière doctrinale, donc dans l'enseignement, pour classer les choses dans leur contexte afin que tous puissent le comprendre et aussi l'assimiler. Mais voyez, dans ce texte en particulier, il est dit ensuite que ce n'est pas la fin. La plupart des gens pensent que le chapitre 10 se termine ici, au verset 7, mais ce n'est pas le cas. Il est dit au verset 8, « Alors la voix que j'avais entendue du ciel me parla pour la seconde fois en disant, « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Écoutez, je m'approchais. Il est écrit ici, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Auparavant, nous lisons qu'il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Et maintenant qu'il aille prendre le petit livre ouvert ou le livre de la main de l'ange qui se tient sur la mer, qui se tient sur la mer et sur la terre. Je m'approchais de l'ange et lui demandais de me donner le petit livre. Il me répondit, « Prends-le et mange-le. Il te donnera dans le ventre un goût amer, mais dans la bouche, il te sera doux comme le miel. » Mais cela ne s'arrête pas là non plus. C'est toute l'introduction à ce qui va suivre. Au verset 10, nous lisons, « Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. En effet, il avait dans ma bouche un goût doux comme le miel. Mais quand je l'eus avalé, il me devint amer dans le ventre. Mais c'est alors que vient le sens de toute l'affaire, au verset 11. On me dit alors, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et c'est là que nous arrivons au point glorieux. Je ne sais pas, je ne sais même pas si j'ai tenu compte de ce passage jusqu'à présent dans l'une des brochures. Mais c'est là que nous arrivons au point glorieux. Si l'on compare cela avec Apocalypse 10 et ensuite à Daniel 12, à partir de ce moment-là, il y a encore les dernières années jusqu'à l'établissement du royaume de 1000 ans. Et je vous le demande maintenant, qui va prophétiser pendant 3 ans et demi? Qui? Les 2 prophètes que Dieu enverra à Jérusalem. Ensuite, l'ensemble du ministère s'achèvera. D'une part, maintenant, dans le dernier âge de l'Église, dans l'Église épouse des nations. D'autre part, par les 2 témoins plus tard en Israël. Mais ils ont encore la tâche de prophétiser sur les nations, les rois et les peuples. Et ce qu'ils prononcent s'accomplit. Dieu leur donne une autorité absolue. Nous voyons donc que la descente de l'ange de l'Alliance, au temps fixé, après l'enlèvement avec le petit livre, ouvre un lien, à savoir qu'il faut à nouveau prophétiser sur les nations, les langues, les rois, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Non pas un peu n'importe où, un peu de bruit parmi les gens, ici ou là, déjà maintenant, mais dans un mandat divin, les 2 prophètes prendront en compte la dernière partie que Dieu nous a destinée ou qu'il destinera encore à d'autres à ce moment-là. Vous voyez déjà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de ce qu'un frère, ici ou un autre là, sort de sa manche comme sa révélation privée. Et là, on entend même des gens. Oui, pas seulement ça. J'ai moi-même écouté la cassette sur le trajet Heilbronn-Nuremberg. Puis quelqu'un arrive et tout à coup, il enlève ses mains de la guitare et la guitare continue à jouer. Et il dit, vous voyez comme c'est beau. Dieu est avec moi. La guitare continue à jouer d'elle-même. Vous savez ce que j'ai fait ensuite? Moi qui ne suis absolument rien sur le plan technique, mon frère Helmut, qui a construit les armoires électriques à l'aéroport de Düsseldorf pour que le monde puisse, n'est-ce pas, s'orienter un peu. Avec là, c'est différent, avec lui. Mais je n'ai aucune idée de la technique. Et vous pouvez tous l'essayer en tant que frère qui actionne un rasoir électrique. Je l'ai débranché et voilà, il a continué. Il a continué de façon amusante, oui, sans qu'il ait encore le contact. Je peux vous faire une démonstration, si vous voulez. Je peux aller chercher ça tout de suite. Je peux le faire venir rapidement. Et puis, il y a des gens qui ont une guitare électrique et qui, comme moi, débranchent le rasoir et le truc. Et le truc fonctionne quand même. Je peux continuer à me raser. Bien sûr, les femmes se remuent la tête et se demandent mais de quoi je parle. Bon, vous ne vous rasez pas, c'est normal, mais on peut vous pardonner. Mais il y a... Vous voyez, regardez, c'est comme ça. Il y a tellement de gens qui veulent se faire de l'argent de toutes les manières possibles. Et puis, les vieilles tantes s'assoient là, s'assiedent là et ne peuvent plus fermer la bouche et disent « Oh, l'onction repose même sur la guitare !» Non, il y a une batterie dedans. Elle continue à jouer. Il n'est pas nécessaire d'ici d'avoir beaucoup de sagesse pour cela, pour comprendre cela. Mais qu'est-ce que c'est? Les gens cherchent à impressionner les autres, à présenter ceci ou cela comme une révélation spéciale. Et que vous le croyez ou non, celui qui ne se sent pas intimement lié à la parole et qui ne l'est pas, se fera avoir aujourd'hui par cette interprétation et par demain une autre interprétation. Et croyez-moi, le diable veillera à ce que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité de tout leur cœur soient pourvus de puissantes erreurs, qu'ils soient obligés de croire à des mensonges parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour pour la vérité. Résumons donc ce que nous avons brièvement traité ici aujourd'hui. Nous devons lire les saintes écritures par révélation divine. En lisant, nous devons faire attention au contexte dans lequel les choses que nous lisons sont écrites. Et le plus important dans tout cela, c'est de comprendre que Dieu est celui qui agit et qui marche et qu'il n'a pas besoin d'un interprète, mais qu'il est lui-même son interprète et que ce qu'il a dit, il l'accomplira quand le temps sera venu. Si donc il est écrit ici que les sept tonnerres firent entendre leur voix et que l'ange de l'Alliance vint avec le livre ouvert, et que le livre fut pris de sa main, et que Jean le prit comme en avant-première pour dire, il faut le manger. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut d'abord qu'un prophète ait reçu la parole en lui-même, qu'il l'ait entendue et qu'il sache ce qu'il doit dire ensuite, avant de pouvoir dire « Ainsi parle le Seigneur ». Les prophètes n'ont pas seulement parlé par inspiration, ils ont transmis ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ce n'était pas un sentiment ou bien un tâtonnement de penser que ce serait la parole de Dieu. Mais c'était la parole sainte de Dieu lui-même à travers ses hommes saints. Et nous croyons et nous pensons que ce sera exactement comme nous l'avons lu. En effet, ce n'est pas du tout la fin lorsqu'il descend et pose son pied sur la terre et sur la mer et qu'il tient dans ses mains le petit livre ouvert. Mais vient ensuite cette annonce glorieuse qu'il n'y aura plus de délai. Mais quand ces jours, lorsque la voix du septième ange retentit, le mystère de Dieu arrivera à son terme, comme il l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes. C'est la première partie. Et ensuite, la deuxième partie, que le petit livre devait être mangé, produire dans le ventre un goût amer, être doux dans la bouche. Et puis il prit le petit livre, il le mangea. Puis il est dit, on m'a dit ensuite, tu dois prophétiser encore une fois sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Tout cela s'accomplira au temps fixé, comme c'est écrit. Je n'ai jamais entendu un seul de ceux qui pensent avoir la révélation de cette tonnerre prophétiser. Je n'en ai jamais entendu prophétiser. Ou bien je n'ai jamais entendu qu'ils auraient prophétisé. Et si c'est le cas, nous allons... Si c'est le cas, nous n'allons pas donner de l'importance à cela. Car comme il est écrit, ils ont transmis leurs pensées, les pensées de leur propre cœur. Mais Dieu, lui, a parlé par la parole, par sa parole. Et nous avons la parole de prophétie en ces jours. Et nous sommes reconnaissants à l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ, qui prend la parole de prophétie et nous la révèle et qui montre le bon contexte en toutes choses. Pour cela, nous voulons remercier le Seigneur Dieu et lui rendre grâce, lui rendre gloire. Amen. Amen. Levons-nous et adorons ensemble. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Les hommes sont comme l'herbe. Ils fleurissent, puis se dessèchent et ne sont plus. Mais ta parole, la parole de Dieu, demeure éternellement. Seigneur bien-aimé, c'était la parole d'ordre dès le commencement. La parole de Dieu demeure à jamais, éternellement. Et demeure éternellement. Seigneur bien-aimé, puisses-tu nous donner une telle relation et un tel lien à ta parole, avec ta parole, que nous devenions un avec toi, avec ta parole, par ton esprit, comme ta troupe rachetée par le sang. Enlève donc de ton peuple toute tromperie et toute malice et mensonge et tromperie. Surtout chez tous ceux qui veulent toujours produire quelque chose de nouveau. Seigneur bien-aimé, et souvent assez pour se donner de l'importance, pour lier les hommes à leur personne et à leur propre révélation. Seigneur fidèle, tu nous as détachés, de la bouche des hommes et de la parole des hommes. Tu nous as ramenés à ta parole, à la parole de Dieu. Nous voulons entendre les paroles bienveillantes qui sortent de ta bouche. Ta parole nous relie à toi. Et la révélation de ta parole est donnée pour que nous te glorifions. Que nous levions les yeux vers toi et vers aucun homme. Seigneur bien-aimé, nous disons comme Pierre, vers qui irions-nous? Où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et reconnu que c'est toi et personne d'autre qui marche au milieu des sept sangliers d'or. C'est de ta bouche seule que sort une épée tranchante à deux tranchants. Et l'épée à deux tranchants est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Et la parole de Dieu pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et eau, et elle est le juge des mouvements, des penchés, des motifs et des pensées du cœur. Seigneur bien-aimé, nous voici ta troupe rachetée par le sang. Dieu fidèle, prends soin de ton peuple. Et comme on l'a déjà prié, arrache les tiens à tous les jeux trompeurs des hommes qui, avec malice, cherchent à égarer, se trompant eux-mêmes, trompant les autres, s'égarant eux-mêmes, conduisant les autres à l'égarement. Seigneur bien-aimé, celui qui te suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est ce qui est écrit. Et pour cela, nous te remercions de tout cœur. Sauveur bien-aimé, dès le début, tu nous as donné une relation de grâce avec toi et ta parole. Et cela restera ainsi jusqu'à la fin. Puisses-tu donner de la clarté à tous ceux qui sont dans le besoin et aide-nous à comprendre que l'heure est venue pour ton peuple d'être retiré de tout et placé en ta présence, de ne pas courir ici et là, mais d'être rassemblé devant ta face pour entendre les paroles de ta bouche. Ce qui est encore caché se trouve auprès de toi, l'Éternel, notre Dieu. Ce qui est déjà révélé et manifesté, tu nous l'as donné à nous et à nos enfants. Nous t'en remercions et nous t'adorons. Sauve les perdus, guéris les malades, délivre tous ceux qui sont surmontés et affligés par l'ennemi. Confirme ta parole par des signes et des miracles et des prodiges et nous t'offrirons de tout cœur l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen.